RFI.
RFI, Radio France Internationale, 7h30 à Paris et Kinshasa, 8h30 à Kiev. On se retrouve dans 5 minutes pour la suite de notre édition spéciale en direct de Kiev. Mais d'abord, l'information africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Andréa. Accalmie précaire ce week-end dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était le cas dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, comme sur le front ouvert dans le sud Kivu, où le M23 soutenu par le Rwanda a progressé le week-end dernier, s'emparant de sa capitale, Bukavu. Le groupe armé avec qui le président Félix Tshisekedi ne veut toujours pas entrer directement en contact. Il a réitéré cette position samedi devant les élus de sa coalition. Lui qui est pointé du doigt par son prédécesseur Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État juge l'actuel pouvoir responsable de la crise sécuritaire dans son pays. Joseph Kabila qui s'exprimait pour la première fois depuis son départ du pouvoir il y a 6 ans maintenant. C'était dans une tribune publiée par le journal sud-africain Sunday Times. Notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégua, l'a lu.
Joseph Kabila s'est adressé aux dirigeants sud-africain et à la SADC, soulignant que la solution à la crise en RDC ne réside pas uniquement dans l'envoi des troupes et d'équipements militaires. Il insistait sur le fait que les griefs du peuple congolais contre le pouvoir en place doivent être pris en compte. La RDC est selon lui au bord de l'implosion avec une situation sécuritaire délétère. Kabila accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique, caractérisé, et je cite, par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires, extrajudiciaires, la répression de l'opposition, la censure des médias ainsi que l'exil forcé des nombreux opposants, des journalistes et des leaders d'opinion, y compris des chefs religieux. Il affirme que d'innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23. Les relations entre les chefs de l'État et son successeur sont tendues. Le 13 février à Munich en Allemagne, Félix Tshisekedi a une fois de plus accusé Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23, ce que les proches de ces derniers ont toujours nié. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Et 2 semaines après leur sommet conjoint, l'EAC et la SADC, Communauté d'Afrique de l'Est et Communauté de Développement de l'Afrique australe, se retrouvent ce lundi à Dar es Salaam en Tanzanie pour examiner les conclusions tirées vendredi dernier par les chefs d'état-major des pays de l'EAC. Il s'agira de la première étape de la mise en œuvre des décisions prises le 8 février dernier. Une charte fondatrice pour un gouvernement parallèle au Soudan, signée à Nairobi au Kenya autour des paramilitaires du général Emeti. Les forces de soutien rapide, bientôt en guerre depuis 2 ans face à l'armée, ont réuni autour d'elle 24 organisations, sociétés civiles, groupes armés et partis politiques. Signature en faveur de la création d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan dans les zones contrôlées par les FSR. Réaction dans la foulée du chef de la diplomatie soudanaise, Ali Youssef. Son pays n'acceptera pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle et n'acceptera pas non plus qu'un autre pays le fasse, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue égyptien. L'actualité au Sénégal également. Il y a une dizaine de jours, la Cour des comptes faisait des révélations sur la gestion des deniers publics de 2019 à 2024, soit sous le mandat de Macky Sall. Des anomalies relevées par l'institution et conséquences directes. Ce vendredi, l'agence américaine Moody's a dégradé la note du pays de B1 à B3 avec des perspectives négatives, ce qui aura comme répercussion de renchérir les emprunts du Sénégal. Un pays, Claire Fage, déjà dans une situation budgétaire difficile.
L'agence Moody's l'explique sans détour dans son communiqué. La dégradation du Sénégal est due aux nouvelles données de la Cour des comptes, révélant une situation budgétaire beaucoup plus fragile. Le 13 février, la juridiction financière sénégalaise avait révélé qu'en 2023, la dette publique du pays atteignait près de 100% du produit intérieur brut et non 65,6%, que le déficit budgétaire lui pesait 12,3% du PIB, 2,5 fois plus que ce que la précédente administration avait annoncé, et qu'une dette bancaire importante avait été contractée hors circuit budgétaire. Le premier ministre Ousmane Sonko a depuis annoncé de possibles poursuites contre les auteurs de ce qu'il a qualifié de manquement grave. En attendant, la note du pays est dégradée de 2 crans à un niveau très spéculatif pour la première fois depuis près de 20 ans. Cela signifie que le Sénégal, désormais classé dans les investissements à risque, sera soumis à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour emprunter dans un contexte de ressources publiques déjà déjà réduite et de baisse de l'aide étrangère.
Explication Claire Fage. On rejoint Kiev tout de suite pour la suite de l'édition spéciale consacrée aux 3 ans de guerre en Ukraine. Je vous rends l'antenne, Andréane Mellard.
Merci Nemo en peace.
Nous, notre objectif, c'est d'avoir la paix, mais une paix durable, c'est-à-dire une paix qui permet à l'Ukraine d'être stable, d'avoir des garanties de sécurité, d'avoir le droit international qui est reconnu, une paix qui soit négociée par les Ukrainiens.
Trump ressemble à une personne qui vient pour vous acheter quelque chose, mais pas pour vous aider.
Une Ukraine en perdition affaiblirait l'Europe, mais affaiblirait aussi les États-Unis.
3 ans jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes toujours ce matin en direct de Kiev avec nos invités Tetiana Ogarkova, universitaire, journaliste, Oleksiy Goncharenko, député ukrainien de la Rada, et Maxime Chervo, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Emmanuel Chaz, notre correspondante à Kiev, et puis nous a rejoint aussi Anastasia Becchio, régulièrement envoyée spéciale des RFI en Ukraine. Bonjour Anastasia. Juste avant le journal, on s'est quitté avec l'idée que ici en Ukraine, il est inconcevable de voir l'avenir décidé par d'autres, de ne pas participer au deal qui est en train de s'écrire. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen est à Kiev avec l'ensemble de la Commission européenne. Ils sont arrivés il y a quelques heures maintenant. Emmanuel Macron, lui, est à Washington pour y rencontrer Donald Trump. Dans quelques jours, ce sera le Britannique Keir Starmer. Tatiana Ogarkova, que faut-il attendre de tous ces déplacements, de ces rencontres ?
Actuellement, nous assistons à un moment très révélateur et très important pour l'Europe, puisque après toute cette rhétorique de Donald Trump qui allait dans le sens que d'exclure l'Ukraine, ou laisser de côté l'Ukraine, laisser de côté l'Europe, donc c'est le moment de se dire est-ce que nous les Européens, c'est-à-dire l'Europe de 27 plus l'Ukraine, est-ce qu'on serait à mesure de faire face à cette agression russe. Et donc ce que nous avons entendu au sommet de Munich, c'était aussi très révélateur pour les Européens, c'est-à-dire que il y a des risques réels que les États-Unis vont se retirer d'une manière ou d'une autre, donc les conditions ça à prévoir, mais se retirer d'une manière ou d'une autre de l'Europe, c'est-à-dire que le parapluie de sécurité dont bénéficiait l'Europe depuis pas mal de décennies, grosso modo après la Seconde Guerre mondiale, donc ce parapluie-là risque de s'éloigner de l'Europe. Donc aujourd'hui, on doit faire face à ce challenge russe, et pas que russe en fait, et donc la grande question, est-ce que nous sommes à mesure de répondre à ce danger ?
Et que va faire l'Europe dans tout ça? Le Premier ministre britannique et le président français à Washington, donc cette semaine, tous les deux sont favorables à l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Alors, dans un but qui reste à définir, on ne sait pas encore trop pour l'heure, mais ce sera en tout cas à l'arrière. Oleksiy Goncharenko, c'est une bonne idée, ça, ou ça arrive trop tard?
C'est la bonne idée, peut-être trop tard, mais c'est la bonne idée, bien sûr. Mais il y a le moment maintenant pour les Europes pour faire la décision. Qui est l'Europe dans ces échecs de mondiaux? C'est un jeu ou c'est les échiquiers? C'est la question. Et bien sûr, j'espère qu'avec le leadership de la France et président Macron, nous pouvons avoir plus de décisions dures pour changer la situation ici et plus de soutien militaire. Et bien sûr, comme président Trump a dit, il y a les océans entre les États-Unis et la Russie. Et il y a seulement l'Ukraine entre l'Europe et la Russie. Et c'est, oui, et c'est vrai. Et j'espère que les Européens vont faire les décisions plus vite et plus dures.
Maxime Chervo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? L'Europe soutient de poids?
En fait, la difficulté que l'Europe a aujourd'hui, c'est que Donald Trump a une manière de mener des négociations internationales qui est quand même celle de l'ancienne géopolitique très classique du tournant du siècle précédent, où on a des négociations qui se font entre forts, personnels, et donc comment trouver sa place dans cette dimension, alors même que Donald Trump avait de toute façon déjà promis durant son premier mandat de se retirer d'une certaine manière quand même de ses engagements américains en Europe. Donc la grosse difficulté de l'Union européenne, c'est comment réussir à garder l'intérêt de Donald Trump pour le continent européen, pour l'Union européenne et les alliés de l'OTAN. Donc voilà, bon, ça va être le gros enjeu aussi des négociations qui sont en cours.
Alors, puisqu'on parle de l'Europe, hier, on a interrogé une femme rencontrée sur le marché d'Irpin à côté de Kiev. On va l'écouter.
Je ne crois pas en l'Europe. Je ne crois pas dans les États-Unis. Je ne crois dans aucun autre pays parce que seule l'Ukraine doit être sauvée, doit être forte, doit tout faire pour elle-même.
Tetiana Ogarkova, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre?
Bah, regardons les chiffres qui ont été cités hier par Volodymyr Zelensky lors de la conférence de presse. Il a dit que 40% grosso modo des ressources militaires et autres s'étaient investies par l'Ukraine, avec 30% de l'Europe et 30% des États-Unis. On aimerait bien être aussi fort de faire face à la Russie tout seul, mais c'est une guerre asymétrique. Elle était toujours asymétrique et elle sera toujours asymétrique parce que la Russie, tout simplement, c'est un pays le plus grand au monde en termes de surface. C'est un pays qui dispose 4 fois plus de population que nous et de ressources, de matières premières, évidemment plus que cela. Nous devons penser en alliance. Des guerres de telle échelle ne sont jamais gagnées par un seul pays. Nous avons besoin d'amis américains, européens, voilà, ceux qui restent à côté de nous. Et donc c'est ensemble qu'on a des chances encore de gagner, parce que la Russie, elle fait des alliances avec Corée du Nord, avec Iran en termes de militaires déjà, des soldats nord-coréens déjà sur le sol russe dans la région de Koursk. Donc c'est ensemble qu'on peut faire face à ce axe de mal, l'expression est datée, mais c'est ensemble qu'on peut gagner.
Oleksiy Goncharenko, on parle de l'Europe, mais quid de l'OTAN ?
Oui, bien sûr, pour l'OTAN, c'est la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et c'est le je pense qu'à l'avenir aussi l'OTAN va changer les Américaines, l'Allemagne va changer le point de vue de ça avec le membership de l'Ukraine à l'OTAN, parce que l'Ukraine aujourd'hui c'est 1 million de gens, de les soldats, et c'est le plus grande armée de le monde occidental est libre. Et je pense que ce n'est pas la bonne idée d'avoir l'Ukraine avec les armes comme ça, pas à l'OTAN. Et j'espère que cette décision va changer et l'Ukraine peut être un membre de l'OTAN.
Alors, vous parliez de l'Allemagne. J'ajoute que hier, Friedrich Merz, donc le chef des démocrates chrétiens allemands qui a remporté les législatives en Allemagne hier, a d'emblée affiché comme priorité absolue la création d'une capacité de défense européenne autonome comme alternative à l'OTAN dans sa forme actuelle.
Oui, comme ça, parce que l'Ukraine aujourd'hui, oui, bien sûr, aujourd'hui l'Ukraine est l'importeur de sécurité. Mais après le cessez le feu et après le paix, l'Ukraine sera l'exporteur de sécurité. Et c'est quelque chose de très important pour l'Europe, c'est très important pour l'OTAN. J'espère avec le change de leadership à l'Allemagne, la position de l'Allemagne va changer et nous pouvons avoir plus de soutien d'Allemagne.
Qui sera nécessaire donc sur le terrain. RFI, il est 8h43 à Kiev.
Édition spéciale Ukraine sur RFI.
On continue de parler de la guerre en Ukraine. 3 ans après le début de l'invasion russe dans le pays, on parlait à l'instant de l'aide internationale. Anastasia Becchio, vous avez beaucoup couvert pour RFI les zones de front en Ukraine. Vous êtes allée récemment à Kharkiv, mais aussi à Kramatorsk. Vous avez rencontré des militaires. Que vous ont-ils dit sur cet appui extérieur?
Alors, Tetiana, vous parliez justement de moments révélateurs pour l'Europe, et c'est ce qu'on ressent effectivement en parlant avec les militaires, les soldats sur le terrain. Ils sont évidemment inquiets de l'arrêt de l'aide américaine. Ils savent pas à quoi s'attendre. En réalité, un commandant de bataillon me disait qu'en dépit de toutes les déclarations, pour l'instant, les Américains continuaient quand même à livrer, par exemple, des drones dans son unité. Donc, ils sont un petit peu dans l'expectative, mais ils sont évidemment conscients que ces livraisons peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre. Donc, évidemment, l'espoir, c'est les Européens, mais encore faut-il, disent-ils, qu'ils montent en puissance. Ils attendent qu'ils prennent en main, en fait, leur défense, puisque la Russie est passée en économie de guerre depuis déjà très longtemps. J'ai entendu de la plupart de ces militaires rencontrés sur le terrain, on a fait gagner du temps à l'Europe en combattant. Maintenant, il faut qu'elle s'y mette vraiment sérieusement. Ils disent aussi merci pour toute l'aide qu'on a reçue, mais c'est une aide qui vient toujours un petit peu à contre-temps, un petit peu trop tard, un peu trop peu. Donc voilà, donc ils attendent vraiment que l'Europe se prenne en main.
Une aide nécessaire, mais à contre-temps et des militaires épuisés. C'est aussi ce que vous avez entendu, Anastasia Bekio. On va écouter un militaire ukrainien que vous avez rencontré récemment.
Je suis fatigué, mon corps est fatigué, mon dos est fatigué, ma tête est fatiguée, tout est fatigué. J'ai passé exactement un tiers de ma vie à la guerre, je n'ai comme les gens de mon âge ni femme ni enfant, parce que si les gens comme moi ne choisissent pas de se battre pour l'indépendance de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine, alors rien de tout cela n'existera. Il faut bien que certains se sacrifient. À la guerre, j'ai déjà enterré mon père et une tonne d'amis. Mon répertoire téléphonique ressemble plus à une longue nécrologie. Dans ces conditions, comment puis-je arrêter?
Tetiana Ogarkova, vous allez souvent, vous aussi, proche des lignes de front en Ukraine. Vous l'avez constaté, cette fatigue, cet épuisement?
Évidemment, il y a cette fatigue, il y a une usure, mais ce qui pèse le plus, c'est l'incertitude et l'absence de plan pour l'avenir. C'est-à-dire que, évidemment, côté militaire, si on prend que l'aspect militaire, cette guerre est dans un état d'impasse. C'est-à-dire que ni les Russes, ni nous les Ukrainiens, on n'a pas une priorité. C'est-à-dire on n'arrive pas à percer le front et à faire des manœuvres stratégiques. Ceci est vrai depuis l'été 2023, depuis l'automne 2023. Et donc, c'est l'absence, justement, de la perspective. Quand et est-ce dans quelles conditions est-ce que ça va s'arrêter, ça pèse, mais ça met aussi toute l'attention sur le moment présent. Nous avons rencontré le militaire hier à Kherson, donc il garde le moral, il garde la concentration. Évidemment, il discute de tout, il discute de Donald Trump, il discute des Européens, mais ils sont dans l'effort concentré. Il essaie de se convaincre de ce que nous faisons aujourd'hui, ça a un sens. Donc les militaires et les civils, on se dit, ça a un sens étant donné toutes les pertes, étant donné tous les sacrifices que nous avons déjà faits, comme le militaire que nous venons d'entendre, il a perdu son père, il a perdu ses camarades. On veut croire que tous ces sacrifices-là, ce n'est pas un vent, et que nous sommes sur la bonne foi, même si... vont voir, même si l'horizon du planning, il est extrêmement flou. Et ça pèse vraiment beaucoup sur les gens.
Une fatigue palpable, donc, pour certains militaires, et notamment ceux qui attendent inlassablement de voir arriver, au bout de trois longues années de combat, la relève. Voilà qui nous amène à une autre question très sensible ici en Ukraine, c'est celle de la mobilisation, Emmanuel Chaz. Plus qu'un sujet sensible, c'est même un sujet de tension aujourd'hui dans le pays.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a énormément de volontaires qui sont partis se battre dès février 2022. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne sont pas revenus ou sont revenus blessés. Ça veut dire beaucoup de familles endeuillées qui doivent faire face à d'autres familles dont les enfants, par exemple, essayent d'échapper à cette mobilisation pour des raisons également tout à fait entendables. Et il y a aussi la question de la désorganisation de cette mobilisation avec des mauvaises pratiques de certains commandants qui font que beaucoup de jeunes personnes, de jeunes hommes ont peur d'être engagés dans des brigades où ils savent que les prises de décision peuvent entraîner leur mort. Et il y a toute la question de cette réorganisation du système. Alors l'État a fait des efforts en ce sens, l'armée a fait des efforts en autorisant le recrutement direct de certaines brigades. Alors on voit des brigades qui sont beaucoup plus populaires que d'autres parce que leurs commandants sont charismatiques, parce que leurs commandants ont fait leurs preuves dans les combats également. Mais cette question de la mobilisation, c'est une question qui est clivante dans la société, puisqu'il y a ceux qui se sont littéralement sacrifiés pour le pays, d'autres qui essayent d'échapper à cette mobilisation, et puis il y a ce besoin, puisque ce combat est asymétrique, la Russie ayant beaucoup plus de personnel militaire que l'Ukraine à l'heure actuelle.
Aujourd'hui, la mobilisation concerne donc les 25-60 ans, arrêtez-moi si je me trompe, Emmanuel Chaz. Oleksiy Goncharenko, est-ce qu'il faut élargir cette mobilisation? Est-ce que l'enrôlement de personnes plus jeunes, potentiellement celui des femmes dans un avenir plus ou moins proche, est-ce que c'est quelque chose qui doit être envisagé ou qui devrait même être décidé dès maintenant?
Moi, je suis contre les mesures comme ça. Premièrement, parce que nous ne pouvons pas combattre avec la Russie, avec le numéro de gens. C'est pas possible. Si nous pouvons avoir plus ensemble de 1000 de gens, la Russie peut faire plus en 300, 500 1000 de gens plus.
Et pour vous, le nombre ne change rien.
Oui, mais je pense que nous, pour nous, les gens, c'est la ressource le plus critique et le plus important. Et nous, nous avons besoin de faire tous pour sauver les gens et pour avoir les lignes plus fortifiées, plus avoir plus de les armes, plus des armes occidentales, plus effectives. Mais nous ne pouvons pas combattre avec la Russie, avec le nombre de gens. C'est pas possible. C'est la question de quelques années et après ça, la catastrophe.
Mmh. Tetiana Ogarkova, vous... Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet de la mobilisation? Est-ce que dans la région de l'Est que vous connaissez, est-ce qu'on est prêt à ça aussi?
En fait, ce que tu es en train de dire, Alexis Goncharenko, c'est que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le nombre de soldats qu'on met dans l'infanterie que ça joue un rôle important, mais en même temps, il faut aussi reconnaître que qu'il y ait ce besoin de mobiliser plus, de mobiliser davantage. La mesure tout à fait récente de Volodymyr Zelensky qui proposait des contrats à 18 ans, 25 ans, et visiblement, d'après les chiffres que nous avons vus dans les médias, ça a l'air de commencer à marcher, c'est-à-dire il y a des jeunes qui veulent s'engager avec des contrats, ils sont rémunérés, il y a un avenir. C'est un sujet très sensible à l'intérieur de la société ukrainienne parce qu'au cœur de cette guerre, il y a aussi ce sentiment de justice. Il y a rien qui peut consoler une famille, une femme qui avait perdu son mari ou bien une mère qui avait perdu son fils, et donc elle a ce sentiment aigu de la justice. Pourquoi moi et pas d'autres qui sont toujours là? Donc c'est un sujet très délicat, mais il est important de savoir que cette guerre, elle est aussi hautement technologique, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de pertes russes, par exemple, on sait que 80% de ces pertes russes sont à cause de drones, c'est-à-dire que cette technologie sans l'emploi dans l'infanterie, c'est-à-dire que il faut trouver justement un juste milieu entre le nombre des gens présents sur la ligne du front, la justice sociale et puis les technologies, où en fait l'Ukraine devient justement un vrai laboratoire en fait de ces technologies-là qui sont utilisées dans la guerre d'aujourd'hui. Et donc c'est avec ces technologies-là qu'on peut réduire des pertes. Ukrainiennes, c'est capital, parce que comme a dit Oleksiy Goncharenko, nous on sera toujours 4 fois inférieurs par rapport aux Russes en termes de nombre de gens qui vivent sur ce territoire.
Alors, Emmanuel Chaise, vous êtes aussi, comme Tetiana, comme Anastasia Becchio, vous êtes beaucoup rendu dans l'Est de l'Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv. Vous avez rencontré aussi les habitants de cette région. Vous êtes notamment passé par un village fantôme. Quel est l'état d'esprit par rapport à cette guerre qui dure et qui n'en finit pas?
Alors, j'ai un attachement particulier à la région, au district d'Izium, tout simplement parce que j'étais présente lors de l'exhumation des corps des fosses communes, donc 447 corps qui avaient été trouvé en septembre 2022 lors de la libération de cette région. Il faut s'imaginer comment la vie peut reprendre après de tels meurtres qui ont été commis contre la population locale. Je me suis rendue à Kamianka, un village à 5 minutes d'Izium à peu près. C'est un village qui est devenu un village fantôme. Il est fortement miné. On y voit vraiment l'étendue de la destruction, l'échelle de la destruction amenée non seulement par les combats mais aussi par les bombardements qui continuent. C'est un village de 1200 personnes avant-guerre. Il ne reste plus que quelques dizaines de personnes, dont une vingtaine depuis 2022 a explosé sur des mines. C'est pour vous dire à quel point c'est un paysage lunaire de dévastation. Et pourtant, il y a encore quelques habitants présents, tout simplement parce qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller. Ils se sont finalement résignés à vivre sous les bombardements dans ce village fantôme que plus personne ne visite et où la vie ne reprendra finalement plus jamais comme avant.
Et RFI, il est 8h53, tout de suite, à Kiev.
Édition spéciale Ukraine sur RFI.
Voilà, alors la société ukrainienne dont on dépeint le tableau depuis tout à l'heure, après 3 ans de guerre, c'est un petit peu tout ça, des militaires, des habitants dans l'Est près des combats, ceux de l'Ouest loin du front ou à Kiev, sans oublier bien sûr les millions de réfugiés à l'étranger. Leur perception de la guerre diffère, tous sont épuisés, même si, on le comprend, ils restent combatifs, déterminés. L'ensemble du pays reste très soudé. et semble se ranger derrière le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifié de dictateur sans élection par Donald Trump. Tetiana Ogarkova, le pays est soudé derrière Volodymyr Zelensky?
Oui, je dirais que le pays est encore plus soudé derrière Volodymyr Zelensky après les déclarations de Donald Trump, puisque Volodymyr Zelensky, lui, a un très grand score de 73% en 2019. Bien sûr, il a quand même perdu durant toutes ces années-là. C'est inévitable, ça serait la vérité dans n'importe quel autre pays démocratique. C'est normal que de perdre sa cote de popularité. Mais c'est vrai que remettre en question la légitimité de président de l'Ukraine en temps de guerre, tant que les élections ne peuvent pas avoir lieu, exactement pour les raisons de sécurité, pour les raisons de bouleversement de la société, le départ des déplacés à l'extérieur, et puis la présence de 10 millions, presque millions, d'aller trancher sur la ligne du front, remettre ça en question, ça revient à répéter en fait cette propagande russe et cette thèse de Vladimir Poutine qui, lui, ne reconnaît pas Volodymyr Zelensky en tant que président, et sous prétexte que son mandat a échoué. Nous connaissons tous que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 30 ans, presque, bientôt 30 ans, et donc ça revient pas à lui de pointer comme ça Volodymyr Zelensky. Donc voilà, aujourd'hui, la société ukrainienne comprend qu'il faut être unis, que ça soit, voilà, sur tous les fronts, front et arrière, parce que le coût de cette désunion sera très clair, sera la défaite de l'Ukraine. Donc, que Volodymyr Zelensky vous plaise ou pas, il faut qu'on reste unis.
Maxime Chervaux, vous comprenez, vous, ces critiques à l'égard de Volodymyr Zelensky?
Les critiques américaines?
Oui.
Disons que c'est vraiment reprendre les éléments de langage de Vladimir Poutine en grande partie, mais également c'est une manière de Donald Trump de refaire ressortir ce côté, comment dire, revanchard, de faire ressortir les critiques qui avaient été portées contre lui en 2016 également aussi. On sait que du côté russe, ce sont des apparences démocratiques vidées de leur contenu. Du côté ukrainien, il y a des raisons très claires pour lesquelles il n'y a pas eu d'élection depuis... en tout cas, l'année dernière, les élections n'ont pas eu lieu, hein, c'est constitutionnel. Et puis, c'est tout simplement toutes les problèmes logistique d'organiser des élections en temps de guerre.
Comme on le disait à l'instant. Ouais.
Voilà, donc c'est tout à fait normal de repousser ça. Maintenant, les critiques, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'il y a Vladimir Zelensky, homme politique, et Vladimir Zelensky, chef de guerre. On peut être en désaccord avec l'homme politique, mais en période de guerre, c'est tout à fait classique et normal de se retrouver un front uni, en tout cas derrière l'homme de guerre, chef de guerre, parce que c'est la continuité de la société quand même qui doit se maintenir durant le conflit.
Alexis Goncharenko, Volodymyr Zelensky est-il toujours la bonne personne pour défendre l'Ukraine?
C'est la bonne question. Volodymyr Zelensky est notre président. Il est absolument légitime. Et nous ne pouvons pas avoir d'autre président maintenant. Mais je pense qu'il sera beaucoup de questions à Volodymyr Zelensky après la fin de guerre, quand le pays était préparé pour la guerre, et beaucoup d'autres questions. Mais pour le moment, encore une fois, je ne suis pas supporteur de Volodymyr Zelensky, mais nous ne pouvons pas avoir les élections maintenant. Ce n'est pas possible physiquement. Ce n'est pas possible. Rien de débat de ça. Il n'y a pas de raison d'avoir de débat de ça. Ce n'est pas possible. Mais après le pays paix et après avoir les sécurités, les garanties de sécurité, nous absolument, nous avons besoin d'avoir les élections démocratiques. Et je pense qu'il y a la grande possibilité que le président de l'Ukraine va changer.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette édition spéciale en direct de Kiev. Merci infiniment à nos invités. Tetiana Ogarkova, je rappelle que vous êtes universitaire journaliste. Et je précise aussi que vous avez un podcast qui est très intéressant pour comprendre le quotidien pendant la guerre. Il est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Avec nous également ce matin, Oleksiy Goncharenko, député d'opposition de la région d'Odessa à la Rada. Également Maxime Chervaux, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 avec nous. Merci infiniment à Emmanuel Chaz, correspondante d'RFI en Ukraine, Anastasia Becchio, régulièrement envoyée spéciale d'RFI en Ukraine. Merci à vous, à la technique pour cette édition spéciale, Boris Vichit et Benjamin Avayou. Merci à eux. Jean-Baptiste Le Tondeur était à la rédaction en chef. Merci aussi au Café Cupidon de Kiev pour son accueil à quelques mètres de la place Maïdan. On se retrouve sur RFI ce midi à 12h temps universel pour une nouvelle édition spéciale en direct de Kiev. N'oubliez pas aussi toutes nos productions sur notre site concernant l'Ukraine. Rendez-vous sur le www.rfi.fr. Je vous souhaite une très belle journée.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
il est parfois difficile de se consacrer à la cuisine. Quelles sont les astuces pour préparer un repas vite et bien ?
Demain,
chaque entreprise a son lot d'employés boulets. Comment travailler avec eux et quel rôle